D'abord, c'est le journal. Bonsoir Hélène Zelani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h sur Europe 1. Sans employer de grands mots, c'est bien le contrat du siècle. 80 rafales vendues aux Émirats Arabes Unis pour un total de 17 milliards. Nous serons notamment à l'usine Dassault Aviation de Mérignac.
Un conseil de défense sanitaire lundi avec peut-être de nouvelles mesures, mais lesquelles l'exécutif se retrouve face à un casse-tête à l'approche de la campagne présidentielle. Pécresse ou Ciotti, les militants votent pour le second tour et le jeu des ralliements bat son plein. Et puis Happy Birthday Angèle, la chanteuse sort son tout nouvel album le jour de son anniversaire, le titre 95.
La tendance météo, Valérie d'Armon.
Eh bien, encore une journée bien agitée demain sur la plupart de nos régions avec de la pluie, du vent, y compris le pourtour méditerranéen, de la neige sur les reliefs et des maximales entre 7 et 12 degrés en général.
Météo complète en fin de journal. C'est donc un contrat historique qui vient d'être signé entre la France et les Émirats Arabes Unis, la vente de 80 avions de combat Rafale.
Oui, quelques heures après cette signature à Dubaï, Emmanuel Macron avait encore le sourire.
C'est le plus gros contrat militaire à composantes françaises de notre histoire, celui que nous signons là. Plus gros que les précédents, et même ceux sur lesquels, à ce stade, il y a des déconvenues. Je reste prudent parce que l'histoire montre que des contrats qui valent pour 18 mois peuvent parfois se dénoncer pour les uns comme pour les autres. Et ces contrats sont importants pour notre économie. Ils créent de l'emploi en France, parce qu'ils seront produits en France, ces équipements. Et ils permettent de financer l'économie française, donc c'est bon. Et ce qui est bon pour les Françaises et les Français, je le défends ardemment.
On a entendu le président, on va maintenant détailler ce contrat exceptionnel avec vous, Maud Descamps, 17 milliards au total et surtout des milliers d'emplois.
Oui, c'est en tout cas ce qu'on assure au cabinet de Florence Parly, la ministre des Armées, de la main-d'œuvre supplémentaire pour fabriquer et livrer 80 rafales aux Émirats Arabes Unis entre 2027 et 2031. Voilà de quoi donner de la visibilité à la filière aéronautique pour les 10 prochaines années, se félicite-t-on dans l'entourage de la ministre. Il faut bien se rendre compte que c'est le contrat le plus important jamais signé par la filière. Le Rafale est fabriqué à 90% en France, 400 entreprises qui travaillent directement pour le secteur, 7000 emplois et avec pour principal acteur Dassault Aviation. Des entreprises qui vont donc devoir se mettre en ordre de bataille. Aujourd'hui, c'est un Rafale qui sort des usines françaises chaque mois. Avec cette nouvelle commande, il va falloir augmenter la cadence, explique-t-on dans l'entourage de la ministre, et passer à 2 voire 3 rafales par mois. Des avions qui seront dotés d'une technologie de très haute qualité qui permet notamment aux rafales de communiquer entre eux sans passer par la voie des pilotes. C'est ce qu'on appelle le combat connecté.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Direction maintenant Dassault Aviation et son usine de Mérignac près de Bordeaux où évidemment on se frotte les mains ce soir.
Oui Stéphane Place, vous avez interrogé des salariés mais aussi des élus qui ne peuvent que se féliciter de la signature de ce contrat record.
Oui, implanté juste à côté de l'aéroport, l'usine Dassault Aviation de Mérignac emploie un peu moins de 1500 personnes, 7 bâtiments, 42 hectares. C'est ici, dans ce vaste ensemble, que sont assemblées les rafales. Alors forcément, pour Alain Anziani, le maire socialiste de la ville, cette commande record, c'est d'abord la garantie d'une activité industrielle pour de longues années sur le site mérignacais.
Une commande de 80 rafales, ça veut dire un plan de charge qui va aujourd'hui s'étaler sur une dizaine d'années. Je n'oublie pas non plus d'ailleurs une bonne nouvelle pour les sous-traitants. Parce qu'au fond, pendant toute cette crise, il y a des grands groupes qui, évidemment, qui ont souffert, mais ceux certainement qui ont plus souffert, ce sont les sous-traitants. Donc là, ça va être un bol d'oxygène pour ceux qui travaillent avec les grands groupes.
Content, bien sûr, d'apprendre cette nouvelle transaction, les représentants locaux de la CGT chez Dassault Aviation, comme Romain Fougerolles, estiment que la réussite de l'avionneur ne profite pas suffisamment à ses salariés.
Souvent, on pense à l'extérieur que Dassault Aviation, c'est super bien, mais sur le terrain, c'est très compliqué. On a des salariés qui attendent plus de 48 mois pour avoir à peine 50 euros bruts. Nous, ce qu'on demande, c'est de se mettre autour de la table et d'avoir une réelle négociation au niveau des salaires. Et alors que les nouvelles sont bonnes.
Des cégétistes qui attendent, pour reprendre leur expression, un juste retour des choses.
Stéphane Place à Mérignac en Gironde pour Europe 1.
Après ce cocorico, on va parler Covid. Conseil de défense sanitaire lundi, Jean Castex laisse entendre que des mesures complémentaires pourraient être prises.
Quel est l'état d'esprit du gouvernement ? Écoutez la réponse du porte-parole Gabriel Attal.
Cette cinquième vague connaît toujours une progression absolument fulgurante avec une augmentation des contaminations de l'ordre de 60% par semaine. C'est une courbe vertigineuse. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de permettre aux Français de passer Noël ensemble. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons. Nous nous mobilisons encore une fois dans la campagne de rappel, nous nous mobilisons avec tous les efforts, la responsabilité que nous avons au quotidien. Et comme l'a dit Olivier Véran ce matin, nous avons notre destin entre nos mains pour traverser cette cinquième vague de contamination et les fêtes dans les conditions les plus normales possibles pour que les Français puissent être ensemble.
Permettre aux Français de passer Noël ensemble, disait Gabriel Attal, c'est en effet tout l'enjeu pour le gouvernement lors du Conseil de défense de lundi, Louis de Ragnel, et c'est loin d'être simple.
Oui, en fait, le gouvernement vient quand même de lancer l'opération Sauver Noël, comme il y a un an, jour pour jour, avec encore ce problème. Vous dites que ce n'est pas simple, effectivement. C'est le problème, c'est la progression du virus, mais aussi les capacités hospitalières qui n'ont pas vraiment augmenté comme promis. Les projections dont dispose le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne sont pas bonnes. 2000 hospitalisations le 5 décembre. Sur son bureau, plusieurs estimations font même état de 3000 personnes admises à l'hôpital pour Covid à la mi-décembre. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que si on dépasse ce chiffre, les déprogrammations s'imposent, une situation que le gouvernement veut éviter à tout prix. C'est pour ça que Jean Castex va s'exprimer lundi pour accélérer la vaccination et notamment faciliter les prises de rendez-vous. D'ailleurs, 300 centres de vaccination mis en sommeil depuis plusieurs semaines vont rouvrir, dont celui de la Porte de Versailles à Paris. Les pompiers de Paris ont un objectif, 166 000 injections par semaine. Mais le gouvernement le sait, au niveau national, le rythme actuel de 500 000 personnes vaccinées par jour ne suffit pas pour éviter le pic épidémique anticipé pour le moment au début du mois de janvier.
Oui, en effet, aujourd'hui, près de 2000 personnes sont en réanimation. Merci Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Notez que la Belgique décide de fermer les écoles maternelles et primaires pour Noël avec une semaine d'avance, histoire de limiter les contaminations. Et à partir de lundi, les événements en intérieur seront limités à 200 personnes au maximum. La Belgique, où on apprend ce soir que deux hippopotames du zoo d'Anvers ont été testés positifs au Covid.
Les pauvres.
Un blâme pour le professeur marseillais Didier Raoult. Décision de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Et cela pour des infractions à la déontologie, notamment sa promotion de l'hydroxychloroquine.
LR se cherche un champion pour la présidentielle. Depuis ce matin, les militants sont appelés à se prononcer pour le second tour. Valérie Pécresse ou Éric Ciotti.
Un scrutin qui se tient jusqu'à demain 14h. La participation est en hausse par rapport au premier tour. Près de 62% à 18h. Alexandre Chauveau, le jeu des ralliements a commencé depuis hier.
Oui, on l'a vu avec les trois perdants, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, qui se sont tout de suite rangés derrière Valérie Pécresse. La finaliste a également reçu plusieurs soutiens importants au sein du parti. Celui de Rachida Dati hier soir, de Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire, ou encore de Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, qui revendique plus de 13 000 adhérents. Autant de voix qui vont compter dans ce second tour, même si Éric Ciotti n'est pas en reste. Le vainqueur du premier tour pourrait bénéficier du report d'une partie importante de l'électorat de Michel Barnier, qui pouvait lui compter sur le soutien et les réseaux de Laurent Wauquiez, très implanté dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez tenant d'une droite plus proche de celle d'Éric Ciotti que de Valérie Pécresse. Ses électeurs sont par ailleurs souvent des adhérents historiques qui pourraient privilégier la fidélité au parti de Ciotti, ainsi que leur proximité géographique avec le député des Alpes-Maritimes. La victoire du Niçois serait néanmoins une surprise demain, mais son score au second tour aura son importance dans la ligne que tiendront les Républicains dans la campagne à venir.
Merci Alexandre Chauveau. Sur l'affaire Hulot et les accusations de viol et d'agression sexuelle, vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait réagi pour la première fois cette semaine en Conseil des ministres. Eh bien, ce qu'il a dit n'a pas du tout plu au candidat écologiste Yannick Jadot.
Je ne sais pas exactement ce que savait le président de la République, mais quand on l'entend aujourd'hui continuer à employer les mêmes termes que les prédateurs sexuels sur le mode halte à l'inquisition médiatique, je pense que le président de la République est du mauvais côté des politiques aujourd'hui en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
Yannick Jadot au micro d'Alexis de La Fontaine.
Eh bien, ça sera justement l'un des thèmes de notre débat juste après votre journal, ma chère Hélène Zélani. Une pause, 19h08, et on vous dit dans un instant qui est le most wanted, le criminel le plus recherché par la France en ce moment. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
19h11 est la suite du journal d'Hélène Zélani. Qui est l'homme le plus recherché de France cette année?
Europol, l'agence européenne de police criminelle, diffuse à partir d'aujourd'hui les portraits d'une soixantaine de fugitifs en espérant recueillir de nouveaux témoignages pour aider à les retrouver. Cette année, William Molinier, le most wanted français, est un trafiquant de drogue à très grande échelle.
Oui, son nom, Joël Soudron, un Guadeloupéen âgé de 42 ans. Il est suspecté d'avoir organisé un vaste trafic de cocaïne entre entre l'Amérique latine, les Antilles et l'Europe. Entre 2005 et 2011, une trentaine d'expéditions lui sont imputées. C'est lui qui aurait fait transiter les 230 kilos de cocaïne saisis dans un conteneur du port du Havre en 2011. Un profil atypique, il est décrit par les enquêteurs comme intelligent, très agile, capable de voyager d'un continent à l'autre grâce à des faux papiers. Et surtout, il aurait blanchi des centaines de millions d'euros, comme l'explique le chef de la Brigade nationale de recherche des fugitifs.
C'est quelqu'un qui a une intelligence supérieure, qui a un très bon relationnel. Il a très rapidement pris des parts importantes dans des sociétés pour blanchir son argent.
En février 2016, Joël Soudron est interpellé à Bamako, au Mali. Il est remis à la France et incarcéré. Mais lors d'une permission de sortie, le 6 septembre 2018, il ne réintègre pas la maison d'arrêt. Depuis, il a complètement disparu des radars. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait se trouver en Afrique francophone, probablement sous une autre identité, où il coulerait des jours heureux grâce à son pactole qu'il aurait réintroduit dans l'économie légale.
William Molinier.
Cédric Jubilard, interrogé sur la disparition inexpliquée de sa femme Delphine il y a près d'un an.
Oui, soupçonné du meurtre, il est en prison depuis juin, mais clame son innocence. Aujourd'hui, Benjamin Peter, il devait retracer devant les juges de Toulouse la fameuse soirée du 15 décembre 2020.
Oui, il voulait l'entendre notamment sur les cris de femmes entendus par une voisine un peu avant 23h, sur la dispute, ou plutôt les chamailleries que leur fils Louis dit avoir perçues ce soir-là, et sur les raisons qui ont pu pousser Cédric Jubilard à laver cette couette que des gendarmes avaient retrouvée dans son lave-linge. Mais une fois de plus, il n'a pas varié, il s'en est tenu à sa version de cette soirée, celle qu'il donne depuis le début aux gendarmes. Et pour Maître Alexandre Martin, son avocat, Cédric Jubilard a pris le temps de s'expliquer.
Il s'est défendu, il s'est expliqué. On a attendu le 3 décembre pour entendre Cédric Jubilard répéter ce qu'il dit depuis le début. Maintenant, ce qui pose problème, c'est pas ce que dit Cédric, c'est que la justice est sourde. Espérons que la justice finisse par entendre ce qu'il dit, qui n'est contrecarré par aucun élément de preuve. Pas de scène de crime, pas de corps, on en est toujours là.
Voilà, alors après plus de 5 heures d'audition dans le cabinet des juges d'instruction, l'escorte de Cédric Jubilard a quitté le palais de justice en milieu d'après-midi. Il a retrouvé sa cellule à la maison d'arrêt de Seyss, mais ses avocats entendent une nouvelle fois formuler une demande de remise en liberté dans les prochains jours. Ce sera la quatrième en 6 mois.
Benjamin Peter, vous êtes notre correspondant à Toulouse. Un mot de handball avec le mondial qui se déroule en Espagne. L'équipe de France féminine, championne olympique à Tokyo, vient d'entrer en lice ce soir face à l'Angola. Pour l'instant, les Bleus mènent 23 à 16.
Si vous aimez la chanteuse belge Angèle, vous serez comblé avec une semaine d'avance sur la date annoncée. Elle sort son deuxième album aujourd'hui.
Son nom, 95, en référence à son année de naissance, 95. 12 titres qui sortent le jour de son 26e anniversaire. Mais sortir un album sans rien autour, ce n'est plus dans l'air du temps. Marie Jiquel, il faut le clip, le documentaire, les tickets gagnants cachés dans les albums et bien sûr, une communication sur les réseaux sociaux en béton.
Et oui, Hélène, un nouvel album pop dans un papier cadeau, couleur flashy, un papier tout brillant. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce paquet? Eh bien, la même recette gagnante que l'ancien album, la fraîcheur d'Angèle, ces textes qui décrivent 24 heures dans la vie d'une jeune femme, le cœur lourd mais libre. On reconnaît aussi ses mélodies efficaces, enjouées, parfois mélancoliques, qui rassemblent donc toutes les générations. Et enfin, on profite de la production percutante signée Tristan Salvati, qui est derrière tous les tubes du moment. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que ça cartonne et pour que ça soit aussi efficace que l'ancien album. 1 million d'exemplaires vendus, Hélène. Et enfin, dernier coup de communication. Angèle a dévoilé il y a quelques heures son nouveau clip, Démon, avec une grosse équipe derrière, 200 personnes au générique et un énorme dispositif YouTube en amont. C'est le seul duo de l'album avec le rappeur Damso, l'un des artistes qui vend aussi le plus de disques en Europe. Angèle y apparaît en cuir rouge, une démone qui sort les griffes. La voici donc à l'attaque.
Merci Marie Jiquel. 95, c'est donc le nouvel album d'Angèle qui sort aujourd'hui.
Merci Hélène Zélani. Puis tout à l'heure, pendant les débats, je vous ai fait une annonce, effectivement, parce que je tenais du directeur de la communication de la Philharmonie de Paris, puisqu'en raison du Zénith de Paris d'Éric Zemmour, ils avaient déprogrammé tous les spectacles, notamment les spectacles pour enfants. Mais, et c'est ce même directeur de la communication qui vient de m'envoyer un texto, comme le rassemblement d'Éric Zemmour se tient à Villepinte, eh bien, tous les spectacles sont bien programmés comme il se doit ce dimanche. Donc pas d'inquiétude. La météo, Valérie Darmon, encore un samedi bien maussade à venir.
Et oui, c'est un temps, aller à la Philharmonie par exemple, hein, ou ailleurs, parce qu'il va pleuvoir quasi tout le week-end. Alors du Grand Est aux Alpes et au Massif central, ainsi que sur les Pyrénées, le ciel va rester très très nuageux et pluvieux toute la journée. La neige tombe abondamment en montagne à partir de 1600 mètres d'altitude en matinée. La limite pluie-neige qui va s'abaisser en fin de journée aux alentours de 800 mètres. De la Bretagne et des Hauts-de-France jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, la matinée qui se déroule sous un ciel couvert et quelques pluies plus ou moins marquées. Le temps qui devient plus variable au fil de l'après-midi, avec même l'apparition rare de quelques éclaircies. Sur les côtes de la Manche, les giboulées qui peuvent donner du grésil, alors que le vent d'ouest va se renforcer jusqu'à 100 km/h et 90 dans les terres. Sur le pourtour méditerranéen, pas de jaloux. Là aussi, le ciel est un peu bas en matinée, avec quelques pluies, et puis ça s'éclaircit au fil de la journée.
Et puis ça s'éclaircit au fil de la journée. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. 19h16, merci Valérie Darmon, merci Hélène Zélani.